France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la primaire de la BAP, la Belle Alliance Populaire, la primaire de la gauche ou en tout cas d'une partie. 7 candidats sont en lice par ordre alphabétique. Jean-Luc Benamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy, Manuel Valls. Premier débat télévisé demain soir. Il sera essentiellement consacré aux questions économiques et sociales, à la sécurité, à la laïcité, à l'identité également. Drôle de primaire, en tout cas, prise dans un calendrier très court dont tout le monde se demande si elle fonctionnera aussi bien que celle de la droite et du centre, à la fois en termes de mobilisation et dans sa capacité à susciter un candidat incontestable. Vos questions, vos analyses, amis auditeurs d'Inter, jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr si vous préférez le courrier électronique, le standard 01 45 24 7000. Je salue Eric des Alpes-Maritimes. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Vous avez la parole.
Une bonne année à vous tous. Ma question est la suivante. Quelle est selon vous la participation minimale pour valider le scrutin? Et en cas de faible participation, quel avenir pour le PS? Parce que le gagnant de la primaire, si c'est une primaire avec 600 000 voix, est-ce qu'il pourra, quelle légitimité il aura à se maintenir pour être candidat à la présidentielle s'il y a une très faible participation? Voilà ma question.
Merci Eric, belle et bonne année à vous également. Pour vous répondre, les invités du téléphone sonnent. Laurent Bouvet, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Thomas Legrand, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique de France Inter. Et rebonsoir Arnaud Leparmentier.
Bonsoir Nicolas.
Éditorialiste au quotidien Le Monde. Qui veut répondre à Eric? Laurent Bouvet?
Oui, il n'y a pas de seuil minimal du point de vue légal, juridique, évidemment politiquement, parce que je crois que c'est la question qui est posée par votre auditeur. Il y a évidemment un problème de large de légitimité, parce que si c'est que 600 000 votants, comme il le dit, ça sera un échec par rapport à ce qui était attendu, par rapport à 2 500 000 votants, par rapport à la primaire de la droite, cette fois-ci 4 millions, ça sera un échec. Là, le PS annonce, les sondages nous donnent 2 millions, 2 500 000 comme participants. Ça paraît un peu élevé parce que d'abord, il y a un problème de capacité du PS à organiser des bureaux de vote. Hein. Le PS a diminué en taille du nombre de militants, du nombre d'élus, de tout ce halo autour du noyau militants, c'est plus la même chose qu'en 2011, on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur, et quand vous avez 40 km à faire en voiture pour aller voter à une primaire, c'est assez dissuasif. Alors dans les grandes villes, ça se pose pas, c'est là où le PS a ses bastions, donc c'est évidemment à ça qu'on pense d'abord, mais il y a beaucoup de gens qui pourront difficilement se déplacer, donc je pense que la participation sera beaucoup plus faible qu'attendue, et en tout cas, évidemment, beaucoup plus faible que celle de 2011.
Réussi ou raté cette primaire, dans quelles conditions, Thomas Legrand, pour rebondir sur la question d'Éric?
Oui, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de seuil, effectivement, mais c'est vrai que je crois que c'est 2,9 millions au deuxième tour, c'était quand même beaucoup en 2011, et il y avait 9 200 bureaux de vote, là il n'y en a que 7 500. Je crois qu'au PS, ils en sont à espérer de dépasser le million, mais quoi qu'il arrive, juste après... si la participation est faible, en tout cas elle sera certainement plus faible que celle de très réussie de la droite, si la participation est faible, effectivement le candidat qui sera issu de cette primaire sera fragilisé, et c'est surtout les sondages, malheureusement c'est comme ça, hein, les sondages sont finalement importants, et là ils seront très importants dans les semaines qui suivront la primaire, parce que si le rapport de force est toujours celui que nous avons maintenant, c'est-à-dire un Macron très élevé, un Mélenchon très en forme, si le PS, le candidat du PS ne dépasse pas les 10% dans les intentions de vote, une énorme pression viendra sur lui, non pas des deux que je viens de citer, mais de l'intérieur du PS, et des responsables, des corps intermédiaires du PS, des élus du PS, de toute la machine du PS, pour que celui-ci se retire, pour que la gauche, y compris Macron, est une chance d'être au second tour.
Arnaud Leparmentier.
Le chiffre est très important parce qu'en fait, cette primaire est quand même une fausse primaire. Rappelons-nous, elle était faite pour que François Hollande puisse se relégitimiser vis-à-vis du peuple de gauche. En trois semaines, mais c'était quand même ça l'objectif pour après reparler à tous les Français. Là, on a quand même un problème, c'est que le candidat issu de la primaire n'incarne pas de manière certaine la gauche, comme c'était le cas en 2011. On a deux candidats décisifs qui sont devant, qui sont pas dans la primaire, donc c'est Emmanuel Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et donc, plus le chiffre est bas, moins ils pourront s'imposer face à ces deux candidats qui caracolent en tête dans les sondages.
Macron et Mélenchon vident de fait de sa substance cette primaire ?
Oui, surtout, je pense, vu de la manière dont elle s'est passée. Si encore la primaire avait eu deux candidats ou trois candidats sérieux. Mais on voit avec la prolifération des candidats, la montée de toute pièce de la candidature de Monsieur Peillon qui avait disparu corps et âme, que ça ressemble plus à un congrès du Parti Socialiste, à un comptage de troupes, que au choix de quelqu'un qui doit vraiment être président. C'est-à-dire que personne ne pense sérieusement que Benoît Hamon, enfin je me trompe peut-être, puisse être président de la République. Or, il se débrouille très bien. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement que Monsieur Peillon puisse être président de la République ? De façon évidente, non. Or, il est porté par des caciques du parti qui se sont cachés derrière lui parce qu'ils veulent pas y aller. Sans doute Madame Aubry et Madame Hidalgo. Donc on est sur une primaire qui est en fait un petit jeu mesquin au sein du Parti Socialiste.
Un congrès du PS, Laurent Bouvet ?
Ben, en tout cas, beaucoup de ceux qui participent comme candidats ou derrière, comme vient de le dire non, le Parmentier, qui se cachent derrière les candidats, pensent à la suite. C'est-à-dire que beaucoup de hauts responsables du Parti Socialiste ont fait une croix sur cette élection avec l'idée que tout est à refaire derrière et qu'il faudra être dans la position la meilleure. Je crois que ça s'explique quand même là-dessus. Et on a vu en 2011, dans un autre contexte, que participer à la primaire, Benoît Hamon avait fait l'erreur de ne pas y aller à l'époque, puisque c'était Martine Aubry qui y était allée et il n'avait pas voulu y aller pour cette raison. Participer à la primaire donne une assise, donne une légitimité. Même Manuel Valls, avec ses 5%, a fait ensuite, évidemment, la carrière que l'on sait. Donc, ça donne un poids parce qu'il y a quand même, on a quand même plus de gens qui se sont mobilisés. On a créé des contacts, on a mobilisé autour de soi, on a créé des équipes. Il y a une dynamique qui est effectivement un peu semblable à un congrès, mais qui va, je pense, un peu au-delà quand même du congrès.
Ouais. Thomas Legrand, puis Alexandre Standard.
Je ne parlerai pas de dynamique parce que justement, participer à une primaire pour la suite et non pas pour être sans doute président de la République comme en 2011, et ben c'est finalement demander aux électeurs de la France entière de désigner le prochain premier secrétaire du PS. C'est pas très motivant et ça risque justement, c'est ça qui risque de faire que la participation sera sans doute faible ou serait faible. Et c'est vrai que finalement Macron et Mélenchon à eux deux, créer le débat que le PS n'a jamais créé. C'est-à-dire, on a l'air de vouloir trancher cet éternel débat des deux gauches. En tout cas, ils l'incarnent de façon un peu outrée, chacun, parce que le PS n'a pas su le trancher depuis maintenant 20 ans.
Alexandre, bonsoir, vous nous appelez de Paris.
De Paris 14.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ma question vient d'être un peu éludée. Je me demandais si
ça arrive.
Je me demandais si c'était vraiment une primaire sans Macron et sans Mélenchon, qui sont capables de faire des scores bien plus élevés que les gens de la primaire à l'intérieur de la primaire.
Merci Alexandre pour cette question.
Ça fait une primaire pour rien, parce que c'est une primaire qui ne règle pas la question. Une primaire, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour sélectionner un candidat pour éviter la division, pour pouvoir être au second tour. Ça ne sera pas le cas. À la fin de cette primaire, il y aura quand même trois candidats de gauche et de centre-gauche, si on inclut à gauche Macron, plus un écologiste important, Yannick Jadot.
Et puis, il y a des refus théoriques assumés de la part d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon de se plier à la contrainte de la primaire, Laurent Bouvet. Hein.
Oui, mais on est dans
en plus du positionnement politique
avec
et stratégique.
Avec la primaire, quand on est dedans, on a vu avec celle de la droite puis celle du PS en 2011, on a l'impression... On oublie un peu qu'on est dans la Ve République. Dans la Ve République, il y a quand même un élément clé. Il y a deux tours. D'ailleurs, on fait la primaire à deux tours, ce qui fait quatre tours, en fait, pour les candidats qui vont aller au bout. Mais c'est-à-dire que la primaire dans la Ve République, c'est le premier tour. C'est le premier tour dans les camps, et puis il y a deux candidats, parce que c'est pas un examen, c'est un concours, comme disait l'autre. Il faut être un ou deux pour pouvoir jouer la finale. Et donc, c'est une primaire qui s'organise dans chaque camp pour que le champion de chaque camp aille... Évidemment, maintenant, il y a un troisième acteur qui est le Front National. Donc, ça a perturbé considérablement le jeu. Il y a une déstabilisation de l'ensemble. Mais enfin, on est dans une situation où il y a deux candidats dans cette gauche au sens large, Mélenchon-Macron, qui, eux, ont joué le jeu un homme, le peuple, on y va, on a vu que Mélenchon le faisait, que le Parti communiste avait dû se positionner avec beaucoup de difficultés par rapport à cela. On voit qu'évidemment, Macron, par rapport au président de la République, et puis ensuite par rapport à la famille socialiste, etc., même aux centristes, perturbe le jeu. Il joue le jeu plein et entier de la Ve République. On se présente, on fait une offre, on a un projet, et ensuite se construit une sociologie autour de ce projet. Il n'y a pas de préalable. Donc c'est intéressant quand même comme démarche, parce qu'on a là quelque chose qui revient quand même à ce qu'est la Ve République, et qui casse un petit peu le mythe que la primaire allait renouveler la politique.
Oui, que c'était l'outil moderne, voilà, de revitalisation.
Que ça allait vraiment changer les choses, etc. Donc c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer.
Arnaud Le Parmentier, qui est entouré de cahiers et de centaines de pages de programmes des sept candidats de la primaire de la BAP.
Oui, j'ai essayé de travailler un petit peu. Non, je voudrais revenir sur la primaire. La différence qu'il y a entre Mélenchon et Macron sur la primaire. Mélenchon, c'est une différence idéologique. Lui, il est en fait de facto sur les deux gauches irréconciliables. Il est sur la ligne qu'avait Valls avant qu'il ne fasse volte-face pour des raisons électoralistes. C'est « je ne veux pas soutenir la face social-libérale ou social-démocrate, peu importe, si elle l'emporte dans cette prière de la gauche ». Donc il n'est pas d'accord, il ne veut pas s'allier. Macron, c'est un petit peu différent. Macron, c'est plus tactique. C'est de se dire « pour prendre le pouvoir tel Mitterrand avant le congrès d'Épinay, si je me rappelle bien, est-ce qu'il faut que je prenne un appareil politique qui soit le Parti Socialiste, pour avoir la main sur des investitures législatives à un gouvernement, pour pas me trouver dans la situation de François Bayrou en 2007, et je vais pouvoir comme ça rassembler la gauche et éliminer mes candidats, parce qu'effectivement il va avoir un candidat socialiste dans les pattes. Mais il se dit, si je fais ça, je perds toute ma spécificité, ni droite ni gauche, ou en tout cas hors des partis, et en plus je n'ai pas confiance dans le Parti Socialiste. C'est un petit peu ça. Donc Macron, c'est plus tactique, ça n'est pas fondamental à mon avis comme refus d'entrer dans la primaire. Mais enfin, ça donne le même résultat.
Bonsoir Elisabeth. Vous êtes avec nous, vous nous appelez de Nantes.
Oui.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Merci à votre émission.
Merci
donc,
à vous.
En fait, moi j'appelais parce que je me sens très citoyenne. Et donc j'ai envie de participer à chaque primaire de tous les partis. Donc je l'ai fait avec Europe Écologie Les Verts, où c'était certes sur Internet, mais après nous recevions tout par courrier, et nous avions des enveloppes pré-timbrées où on pouvait justement voter pour qui on voulait, y compris avec un bulletin blanc, ce que je trouvais très intelligent. Ensuite, j'ai fait ça pour Les Républicains, le Centre, et là, mon bureau de vote était à 10 minutes à pied de chez moi. Donc bon, voilà, j'y suis allée. Maintenant, pour le Parti Socialiste, il se trouve que ça se passe à 3,5 km de chez moi. Nous sommes dans une grande ville, hein, c'est Nantes. Et donc, je dois prendre 2 ou 3 bus dans le week-end, quand évidemment les horaires sont élargis.
Une demi-heure de marche, c'est mal fait à Nantes, alors, parce que là...
Et donc, je trouve ça complètement suicidaire de la place...
De la part du Parti Socialiste, oui.
Ils ne vont avoir aucune participation.
Oui, de fait, à cause de la raréfaction qu'on évoquait tout à l'heure. Merci Elisabeth. Alors, Thomas Legrand.
Ce qui est intéressant dans le cas d'Elisabeth, c'est qu'elle dit qu'elle va participer à toutes les primaires. Ce n'est pas du tout dans l'esprit des primaires, et moi je trouve ça très bien, en fait, parce que il y a quelque chose de nouveau. Moi, je trouve qu'en ce moment, par les temps qui courent, quand il y a une urne qui passe, ça se saisit. Hein, vu l'état de la démocratie.
Ça fait rire Arnaud Le Parmentier, je ne sais pas pourquoi.
Je comprendrais très bien que des gens de gauche votent à la primaire de droite. Je comprendrais très bien que des gens de droite, bien que... Il n'y a pas grand chose à y faire là, en l'occurrence, parce que vote à la primaire de gauche, parce que déjà, on choisit quel débat on aura. Est-ce qu'on aura un débat plus identitaire, par exemple, si on choisit Sarkozy ou Manuel Valls, ou un débat plus économique, si on choisit François Fillon et Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon? Et je trouve que c'est pas mal de pouvoir se choisir ces débats. En revanche, je suis assez d'accord avec Laurent Bouvet. Moi, j'étais assez favorable au côté moderne de la primaire, et je me suis aperçu, comme tout le monde, que l'assiette électorale de la primaire de la droite, et je crains que ce soit la même chose pour la primaire de la gauche, montre que finalement, ce sont déjà les gens très intégrés, les gens très politisés, et finalement... les in, comme pour prendre un langage macronien, qui votent, et du coup ça crée sociologiquement quelque chose, ça crée des candidats qui sont sociologiquement par raccord avec la population. Et quand on s'interroge à juste titre sur la déconnexion des politiques et de la population, c'est assez contre-intuitif, mais la primaire, finalement, on s'aperçoit avec la droite, accentue cette déconnexion, c'est assez étrange.
Arnaud Le Parmentier.
Excusez-moi Thomas Legrand, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve au contraire que la primaire, qui a été une primaire, j'allais dire, pas tactique, par exemple, à droite, une primaire plaisir, les gens ont voté François Fillon. Oui, ils ont voté François Fillon, ils sont droits dans leurs bottes. Alors peut-être
que ça fait... Le concept de primaire plaisir.
Le primaire plaisir. Oui, avant, il y avait la primaire utile. La primaire utile, c'était on vote pour le candidat qui va gagner, qui va faire gagner. Donc on vote Ségolène Royal à la fausse primaire de 2007. On vote pour François Hollande parce qu'il va permettre de battre Sarkozy. Là, la droite était tellement sûre de l'emporter. On pensait avant la primaire de la droite que le candidat, quoi qu'il arrive, allait gagner. On en est
Ça l'a pas mis sur des rails,
mais ça fait que la droite, à mon avis, est droite dans ses bottes. De même, on a une extrême droite,
c'est
malheureusement,
pas une droite populaire,
droite dans ses bottes. Non, pas dans tout bien, non, mais il peut y avoir une droite bourgeoise, ça peut
exister. Bien sûr,
mais je trouve que ce phénomène de primaire fait qu'on a quelque chose de rationnel. Même les Verts ont Yannick Jadot, au lieu d'être tombés comme la dernière fois dans leur primaire, dans le candidat le plus sectaire, qui était celui d'Eva Joly contre Nicolas Hulot. Donc je trouve que si on vote avec son cœur, c'est ce qu'avait dit Fillon, eh ben, ça donne un résultat pas mal. Alors ce que je crains, c'est qu'effectivement, au Parti Socialiste, ils votent pas Valls et que ce soit pas le choix de leur cœur.
Sur le plaisir bourgeois de la primaire, Laurent Bouvet.
Alors d'abord, la primaire, la grande illusion de la primaire à la française, c'est qu'on a cru que ça désignait le vainqueur. Bon, la primaire, l'exemple américain montre que ça peut désigner, et il y en a eu plein dans l'histoire, des perdants aussi bien que des gagnants. Donc,
Qu'il y a toujours des primaires.
Alors, il n'y en a pas toujours eu, mais disons depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est le cas. Mais non, mais c'est intéressant parce que on a un peu eu l'illusion de la primaire. On en revient un petit peu pour les raisons qu'on vient de dire. Moi, je pense qu'une primaire, aujourd'hui, dans le système français, quand on n'a pas un candidat naturel, comme on dit, c'est un moyen de contourner les partis qui sont devenus des institutions extrêmement faibles et surtout vis-à-vis desquelles la défiance est telle que la sélection à l'intérieur des partis, il faut vraiment s'appeler Le Pen pour pouvoir s'imposer dans son parti. Voilà.
Ou Mélenchon.
Mais simplement, Mélenchon, c'est pas vraiment dans un parti.
Non.
Hein, il est bon. Mais en tout cas, ça va s'il y a une dynamique vers la victoire. C'est-à-dire que il y a un enthousiasme, on a vu à droite, même si c'est le cœur de la droite conservatrice, provinciale, catholique, bourgeoise, etc. Mais ça crée quand même un socle. Ne nous faisons pas d'illusions sur Fillon. Est-ce que ça n'a pas créé une dynamique? On va voir. Parce que là, on est dans la primaire de la gauche, etc. Il y a eu la montée en puissance de Macron. On va voir. La campagne va vraiment commencer après la primaire de la gauche. Et on verra que Fillon, il a un socle. 4 millions de personnes, c'est pas rien. Parce qu'à partir de là, il peut construire. Fillon, il va avoir les retraités, il va avoir la France catholique, il va avoir, comme Marine Le Pen, va avoir une grosse partie des catégories populaires. Ça fait des socles électoraux considérables à partir duquel ils peuvent construire. Il n'y a aucun autre candidat qui est capable de dire ça aujourd'hui.
Allez,
faut faire attention à ça.
Retour au standard. Bonsoir, Colette. Vous nous appelez du Nord et vous êtes choqués.
Bonsoir tout le monde et bonne année à tout le monde.
Bonne année à vous également.
Bon, merci. Je voudrais simplement vous dire un petit peu mon indignation. Mon indignation depuis le début de ces primaires, dont les médias et même France Inter, que j'estime beaucoup, parlent avec beaucoup de mépris. Comme si cet appel aux militants et aux sympathisants du PS n'était pas le bon. Hein. Il me semble que vous faites déjà des projections en disant le PS est foutu et puis ça va être la droite. Hein.
Ça, c'est alors, le parmentier, ça. Je pense encore pire. Oui.
Hein. Je suis pas d'accord du tout. Ou l'extrême droite, je suis d'accord. Hein. Mais vous faites tout pour que les gens se désintéressent de cette primaire et n'aillent pas voter.
Merci Colette pour votre intervention, pour cette indignation. Nous allons consacrer de nombreux téléphones sonnent, faire des émissions spéciales sur cette primaire de la gauche. Arnaud Le Parmentier, je crois que vous étiez directement visé. Répondez.
Oui, bah oui, le PS est en échec. C'est quand même tout à fait inédit qu'un parti ne puisse pas présenter son champion, qui est le président de la République sortant, à la présidentielle. Donc c'est quand même ce qui s'est passé. C'est quand même, c'est pas nous qui inventons l'échec du Parti Socialiste au pouvoir, c'est François Hollande qui en tire les premières conséquences. Ensuite, effectivement, on l'a vu dans les sondages d'opinion, vous me direz que ça ne fait pas tout, mais on a quand même vu un parti qui, pendant 5 ans, n'a fait que se déchirer. Donc, effectivement, il y a un petit problème sur le Parti Socialiste.
Donc, vous n'y croyez pas de toute façon à la primaire socialiste
C'est pas ça du tout. C'est que je pense qu'effectivement, c'est l'incapacité de concentrer autour du Parti Socialiste une primaire de gauche, une vraie primaire de gauche, montre que le Parti Socialiste n'est plus en état.
Thomas Legrand.
Il ne faut pas vous décourager. Et moi,
vous parlez à Colette, là.
Colette, loin de moi l'idée de... Moi, plus il y a plus y a de gens qui votent à des tas d'élections, plus je trouve que la démocratie est pleine de vitalité. Donc tant mieux. Nous, on fait simplement un constat que par rapport à la dernière fois, là, cette fois-ci, le PS n'a pas réussi à établir plus de 7500 bureaux. Ça fait plus de 2000 bureaux de moins de vote, même un peu plus. Et dans chaque bureau, en 2009, il y avait 5 militants pour tenir, surveiller. Là, il n'y en aura plus que 3, donc comment ça va se passer?
Oui, donc vous dites qu'il y a une faiblesse objective.
Il y a une faiblesse objective que l'on décrit, voilà, et c'est tout. Et donc, en décrivant ça, évidemment, on donne une image un petit peu sombre, mais allez-y.
Laurent Jouvet, puis Alain Standard.
Il y a eu l'échec global du gouvernement par la non-candidature de François Hollande, et puis surtout, il y a eu, on l'a vu aux élections locales pendant ces 5 dernières années, il y a eu des lames qui sont passées les unes après les autres pour couper ce qu'était le PS à la base. Avant les municipales de 2014, à la Fédération Nationale des Élus Socialistes et Républicains, la FNESER, qui regroupe les élus qui se reconnaissent dans le PS, etc., il y avait 60 000 adhérents. Après, il n'y en avait plus que 30 000. Il y a des régions entières où il n'y a plus de conseillers régionaux. Les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et puis PACA, puisqu'ils ne se sont pas présentés au second tour.
Vous avez l'élégance de se retirer.
Vous avez des territoires entiers qui étaient des bastions. On peut penser aux Bouches-du-Rhône, on peut penser au Nord-Pas-de-Calais, qui sont quasiment désertés aujourd'hui par ce qu'on a appelé le socialisme municipal, etc. Il n'y a plus de parti socialiste à la base. C'est devenu une coquille quasiment vide, avec des grands bastions dans les grandes métropoles. Paris, Lyon, Nantes, on en parlait tout à l'heure. Il reste,
même
évidemment,
à Nantes, on a du mal,
une force, oui. Mais c'est un gruyère. Donc, il faut bien voir que avec une faiblesse comme ça, et puis après 5 ans de difficultés au niveau national, la primaire socialiste peut difficilement se passer dans les meilleures conditions. C'est objectif.
Alain, bonsoir. Soyez le bienvenu, Alain.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, bonsoir, Nicolas. Oui, une question, là, je me tournais en particulier vers Thomas Legrand. Comment expliquez-vous la double candidature de Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, qui sont relativement proches? Comment expliquez-vous qu'il n'ait pas été capable de se mettre d'accord sur un seul des deux? Parce que s'il n'y en a qu'un qui se présente, il est sûr de gagner. Valls, c'est le dégoût, les autres valent rien. Et pour les gens qui ont le cœur à gauche, c'est assez dramatique, cette situation. Alors, comment vous analysez ça? Pourquoi ils ne sont pas mis d'accord?
Merci Alain pour cette question. À Montebourg, comme on dit, ai-je lu, pour parler de ces deux candidats, Thomas Legrand.
Si vous regardez leur programme, justement, ils ne sont pas tout à fait pareils.
Expliquez-nous les nuances, les différences.
Nuances. Alors, Arnaud Leparmentier qui a tous les programmes devant les yeux pourra préciser tout ça, mais Arnaud Montebourg développe un programme un peu souverainiste, très volontariste,
colbertiste, keynésien,
assez vertical. Et Benoît Hamon, lui, a fait un plaidoyer pour l'Europe. Met beaucoup d'écologie, remet en cause la croissance industrielle, ce que ne fait pas du tout, enfin ce que fait beaucoup moins Arnaud Montebourg. Donc il y a, et sur l'éducation, ils n'ont pas tout à fait les mêmes
avis.
C'est disons que sur un axe droite-gauche, sur l'axe gauche de la gauche, centre-gauche que peut recouvrir le PS, ils sont à peu près au même endroit. Mais c'est pas tout à fait la même sociologie non plus. Benoît Hamon, c'est un peu plus les villes, la gauche bobo, j'aime pas ce mot, mais même si j'aime bien le définir, mais enfin en tout cas, et Arnaud Montebourg s'attache plus à l'industrie, à la PME,
la croissance made in France, à l'ancienne, etc. Voilà. Arnaud Leparmentier.
Mais je voulais tout à fait approuver ce que dit Thomas Legrand. Montebourg est beaucoup plus nationaliste et Benoît Hamon est très à gauche aussi comme Montebourg, mais beaucoup plus européen, dans un cadre qui est beaucoup plus... Montebourg dit « je vais aller casser de la vaisselle à Bruxelles », Benoît Hamon s'en garde complètement, même s'il a des critiques fortes. Il est vraiment dans un cadre beaucoup plus
On le verra après, mais je pense qu'il est plus macrono-compatible.
Oui,
et ça,
il est beaucoup plus macrono-compatible. On l'a vu ce dimanche, l'émission qu'on a eue en recevant Benoît Hamon. Il a un discours charpenté auquel on adhère pas, mais il y a beaucoup moins de coups de menton.
Laurent Bouvet. sur la différence Montebourg-Hamon.
Ces différences sont très importantes. On peut y ajouter quand même une vision qui s'est développée dans cette campagne, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent dans cette primaire, sur la question du revenu universel et du travail. Benoît Hamon est dans un programme assez innovant du point de vue de cette proposition du revenu universel, donc un revenu pour tout le monde qui viendrait comme ça compléter un certain nombre de choses, alors que Arnaud Montebourg a rappelé l'importance et la centralité du travail, alors que Benoît Hamon est déjà dans une société du post-travail, de l'après-travail, avec réduction encore du temps de travail, revenu universel, donc des visions de la croissance, du productivisme, du protectionnisme, ça a été dit, qui
Arnaud
sont quand
Montebourg
même assez différentes.
Arnaud Montebourg a même cogné très fort sur le revenu universel.
Et rappelons, et vous disiez Hamon plutôt compatible avec Macron, Macron s'est présenté dans son discours de la Porte de Versailles comme le candidat du travail aussi, hein. Il faut faire très attention. On a des,
mais
on a
le travail uberisé, ils sont tous
mais
on a des éléments qui sont qui s'ajustent les uns aux autres de manière un peu plus compliquée. Et puis il y a aussi l'aspect tout sauf Valls.
Hein,
donc
qui les
unit. Il faut pas oublier Manuel Valls dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup d'autres candidats, mais Manuel Valls, il a une spécificité, c'est que sur l'économie, bon, il sort premier ministre d'Hollande, c'est compliqué, l'héritage, etc. On sent qu'il est pas très à l'aise, on va dire ça dans cette campagne comme ça, mais il a quand même pour lui, par rapport aux autres, la verticalité de l'État régalien et de l'autorité que personne ne peut lui contester dans cette primaire. Donc ça aussi, attention, ou même qu'un Macron à côté ne peut pas lui contester. Donc là aussi, sur les demandes, ça va pas forcément se jouer sur les questions fondamentalement d'abord économiques et sociales. Il y a aussi, on est dans un contexte d'attaque terroriste, etc. Il faut pas oublier ces dimensions-là. Hein.
Jean, bonsoir, vous nous appelez de Bayonne.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. Voilà, je me posais la question de savoir s'il ne serait pas plus pertinent d'opérer par des primaires telles qu'il est fait aujourd'hui, et on voit que c'est extrêmement destructeur pour les candidats qui ont perdu, notamment Alain Juppé, on l'a vu à droite. Est-ce que il serait pas plus pertinent de désigner un candidat au sein de l'organisation du parti, qui lui serait poussé mécaniquement par les autres, puisqu'il n'y aurait pas de déçus issus d'un vote. Donc
à l'ancienne, ouais, ça fonctionnait aussi. Merci Jean pour cette question. Qui veut dire un mot? Thomas Legrand, Arnaud Le Parmentier.
Vu l'état du Parti Socialiste, c'est très compliqué. On a vu comment se passait une élection interne stricto sensu dans le parti avec l'UMP en 2012, les tricheries, etc. Le PS aussi a une longue tradition avec ses fédérations contrôlées par les uns et par les autres dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Sud, de tricheries. Et la confiance ne règne plus, même à l'intérieur du parti. Et c'est pour ça que même si on peut critiquer la mécanique des primaires et ce que ça peut induire, je crois qu'elles sont maintenant inévitables dans vu l'état des partis et leur défiance.
Arnaud Le Parmentier.
C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, dû au Front National. L'expérience du 21 avril 2002 montre que quand on arrive à la bataille divisée, on perd, voire on est éliminé du second tour.
Laurent Bouvet, vous aviez dit un mot déjà du système ancien par rapport à la modernité de la primaire.
Là, on est au moment, après on peut faire des spéculations historiques, mais on est quand même à un moment où on parle de post-démocratie, etc. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, où les partis tels qu'on les connaît, qui sont des inventions institutionnelles de la période de démocratisation de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle pour aller vite, donc un siècle après, en gros, sont devenus inadaptés, avec beaucoup de défiance, avec des problèmes de frontières, qu'est-ce qui est dans le parti, qu'est-ce qui n'est pas dans le parti, quel est le rôle d'un militant, est-ce que les élus doivent être désignés, etc. On est dans quelque chose qui quitte cet environnement, qui quitte cette période particulière de construction de la démocratie. Et tous les partis sont touchés, à différents degrés, mais évidemment les partis qui sont les partis des partis, si je puis dire, c'était à gauche, les partis qui ont eu des militants, etc. Même si en France, on n'a jamais eu des partis de masse très importants, il faut bien le rappeler, par rapport à d'autres pays, mais c'est pareil dans tous les pays, on a une délégitimation profonde de l'institution partisane, et donc aujourd'hui, on essaye de trouver d'autres voies. Et je crois qu'on pourra difficilement revenir en arrière.
Arnaud Le Parmentier, puis Emmanuel au standard.
Moi, je pense que le problème numéro un, c'est les deux gauches irréconciliables dont a parlé Manuel Valls. C'est les institutions de la Ve République qui fait qu'on est coupé entre gauche et droite. Bien naturellement, le Front National va perturber ce jeu. Si les gens avaient, enfin les gens, les partis, les électeurs avaient une identité compatible, claire, on aurait ce problème d'identité beaucoup moins fort. Le FN est droit dans ses bottes, même s'il se dispute. Les partisans de Mélenchon, je pense, même si ce n'est pas formellement un parti, mais adhèrent à ce que dit Mélenchon. Donc moi, je pense que c'est simplement le Parti Socialiste, ce mythe qui a fait le succès de la gauche depuis François Mitterrand, de l'union de la gauche, visiblement ne marche plus. La question est de savoir, c'est un petit peu comme les 30 Glorieuses. Pendant longtemps, on a cru que les 30 Glorieuses, c'était la norme, et on s'aperçoit maintenant que c'était l'exception. Moi, je voudrais savoir, est-ce que l'union de la gauche, c'est la norme, ou est-ce que c'est en train de devenir historiquement l'exception ?
Thomas Legrand.
Mais il y a plus, c'est vrai que il y a plus cette glu, il y a plus cette colle qui peut réunir des différents partis de la gauche, parce que le rapport au travail, Laurent Bouvet l'a dit, le rapport à l'économie a beaucoup changé. Il y a eu l'expérience. Moi, je pense que cette glu existe. C'est l'écologie. Mais ils n'ont pas encore trouvé comment former un programme qui pourrait être compatible entre ces trois morceaux de la gauche.
Emmanuel, bonsoir, vous nous appelez de Grenoble.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci pour la qualité de vos émissions. Oui, très brièvement, j'ai l'impression qu'il faut peut-être faire attention aux anticipations, aux prévisions des sondages qui se sont trompés pour l'élection de Fillon, celle de Trump, celle du Brexit. Et donc, il n'est pas impossible que anticiper dès maintenant un duel Mélenchon-Macron et résumer finalement cette primaire à un congrès du PS soit un peu prématuré.
Mmh. Donc prudence, vous pensez que quel type de scénario pourrait advenir, Emmanuel par exemple ?
J'ai pas de boule de cristal, je dis simplement attention et un peu de distance. Juste après, justement, ces événements, il me semble que dans les différents médias, France Inter, France Culture et beaucoup d'autres, il a bien été dit qu'il fallait faire attention au sondage, prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport aux événements. C'est tout ce que je voulais.
Bien sûr. On n'a pas parlé, on n'a pas parlé de sondage ce soir, pour l'instant, en tout cas.
Aucun de nous trois va vous dire qui, Emmanuel, a de bonnes chances de gagner cette primaire. Là, on serait bien incapable de le dire et on serait bien imprudent de le dire. On a simplement dit que celui qui allait le gagner serait sans doute dans une situation pas aussi favorable que les François Fillon, tout simplement parce qu'à côté, déjà bien installé,
il y a deux personnes
sont bien installées, Macron et Mélenchon.
Une question de François de Saint-Cloud avant de donner la parole à Arnaud Le Parmentier. Bonsoir François.
Oui, bonsoir. Mais ma question rejoint un peu celle de
la précédente.
La précédente, c'était savoir que vous nous expliquiez pourquoi on était inondé de sondages lors de la primaire de la droite, et maintenant plus aucun, ou presque.
C'est vrai. Vous l'avez justement noté. Merci François. Arnaud Le Parmentier, puis Thomas Legrand.
Alors moi, je donne la réponse pour Le Monde. Nous, on a fait effectivement des sondages pour la primaire de la droite, sans connaître le corps électoral, donc c'est très difficile. Le dernier soir de la primaire, c'était Ipsos Teinturier a donné que Fillon était qualifié à coup sûr, mais pas dans la qualité de son avance actuelle. Et là, vis-à-vis de la primaire de la gauche, honnêtement, on fait profil bas, même si on a des échantillons, parce que le corps électoral change tellement d'avis que on a renoncé à un usage, j'allais dire, qui est interprété comme prédictif des sondages. Nous, on sait que c'est pas prédictif, mais les gens nous reprochent de publier des sondages sur une photo à un moment donné. Moi, je pense que pour Fillon, ce n'est pas que les sondages sont tombés, c'est que les gens ont changé d'avis. On l'a constaté physiquement autour de nous, mais c'est mal perçu et donc on essaie de travailler autrement.
Et puis,
Thomas Legrand.
Et puis, c'est vrai que pour avoir des sondages un tant soit peu fiables pour les primaires, il faut que au moins il y ait 2000 personnes qui se déclarent volontaires pour voter. Et donc là, pour avoir 2000 personnes sûres d'aller voter, il faut des échantillons beaucoup plus importants que pour les sondages de la droite. Il faut des échantillons de 25 ou 30 000 personnes. Personne n'a les moyens de se payer ça, si en plus c'est fait pour être critiqué. Payer tout ça pour être critiqué le lendemain.
Laurent Bouvet, alors sur la primaire, c'est mission quasi impossible. Effectivement, compte tenu de la volatilité et de la difficulté de figer un échantillon. En revanche, on a, par exemple, avec le CVPOF, des études dont la dernière vague est sortie sorti il y a quelques jours, qui montrait sur les fonctionnaires, qui montrait quelque chose de très intéressant, donc là sur la présidentielle en général, qui montrait que, là sur un échantillon très important, donc très significatif, qui montrait que chez les fonctionnaires, toutes catégories confondues, Marine Le Pen arrivait en première position, et Fillon, malgré son programme de suppression de 500 000 emplois publics, hein, parce que c'est pas uniquement les fonctionnaires, on dit les fonctionnaires, oui. Suppression de fonctionnaires, mais c'est emploi public, hein, il n'y a pas que des fonctionnaires dans la fonction publique, dans les emplois publics, et 500 000 suppressions arrivent deuxième. C'est très intéressant, je pense que c'est un fait assez majeur de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que, et moi ça me fait dire une chose, pas de prédiction, évidemment, la science politique n'est surtout pas une science prédictive, pas plus que les sondages, mais que Fillon a la possibilité d'aller au-delà de son cœur électoral assez facilement. Parce que même s'il a un impact de ce type chez les fonctionnaires, alors qu'il propose la suppression d'emplois publics, c'est un signe qu'il quelque chose peut se passer.
Régine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Côte d'Or, soyez la bienvenue.
Eh bien, moi je suis un peu énervée parce que j'ai 85 ans, je suis catholique et je n'ai pas la moindre intention de voter pour Fillon. Et je ne voterai pas pour Fillon, je ne voterai pas non plus pour Marine Le Pen. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours voté à peu près dans le centre, mais comme il n'y a plus de centre qui me conviennent, et que je n'ai plus confiance dans les socialistes, eh ben je vais voter pour Mélenchon.
C'est une première, donc, pour vous, après une vie passée à voter au centre, vous votez Mélenchon, Régine.
C'est ça.
85 ans, bah écoutez, merci en tout cas d'intervenir au téléphone sonne.
Une voix jeune.
Oui, une voix incroyablement jeune. Arnaud Leparmentier veut dialoguer avec vous, Régine.
Non, mais Mélenchon était enfant de cœur, donc c'est peut-être l'explication, le point commun que vous avez lu avec eux. Vous, dans ce que je voudrais noter, c'est qu'on n'a effectivement pas parlé du tout de Manuel Valls pendant ces 45 minutes.
Oui.
Donc c'est un petit problème, et je pense que le problème...
Il n'y a pas eu de
question
là-dessus.
Et moi, je pense que le problème, et je vais poser la question à mes camarades de jeu...
Arnaud de Paris.
Comment peut-on espérer gagner une primaire quand on dit, après avoir dit qu'il y a une gauche irréconciliable, qu'on veut rassembler tout le monde, et après avoir usé le 49-3, dire qu'on y renonce? Ça, je ne comprends pas comment la situation peut se débloquer pour Valls.
Thomas Legrand, moi ce qui me gêne plus dans le discours de Valls, c'est pas tellement ce qu'il dit maintenant, c'est que en fait, on connaissait Valls, on sait qui était Valls, il a été Premier ministre, ses qualités, c'était ce qu'il était, et pour cette primaire, il s'est mis sur un autre créneau. Et donc, il est passé d'une position à une posture, et ça se voit, et c'est un petit peu comme Nicolas Sarkozy, ça se voit, et maintenant tout se voit, les gens décryptent ça très bien. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit trou d'air, mais je ne suis pas sûr non plus pourquoi on dit qu'il y a un trou d'air, on n'en sait rien, sondages ne sont pas crédibles, et c'est vrai qu'il est sur une position qui est peut-être intéressante pour certains électeurs.
J'ai repéré une question au standard de Grenoble, Jean Placide, Manuel Valls n'est-il pas le seul candidat valable?
Il est tout seul. Disons qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce qu'effectivement, il fait pas une bonne campagne pour les raisons.
Et faire très vite.
Pour les raisons qui viennent d'être dites. Simplement, il est tout seul sur son créneau. La fusée Payon n'a pas décollé, a fait long feu. En face, il a deux poids lourds ou poids moyens, je ne sais pas comment on peut dire, Hamon, Montebourg, qui se partagent la gauche, disons. Et Manuel Valls peut tout à fait, et assez raisonnablement, être considéré comme le candidat de, disons, l'aile droite du Parti Socialiste, de cette gauche de gouvernement, dans cette primaire. Donc, il sera certainement au second tour. Après, c'est le Tousso Valls qui peut jouer. Mais je ne vois pas un duel Hamon-Montebourg.
Le projet qui ose un pari.
Hamon-Montebourg, je ne vois pas un duel Hamon-Montebourg au second tour de la primaire. Voilà.
Merci Laurent Bouvet, on vous rediffusera ce segment de phrase après le premier tour. Professeur de sciences politiques à l'université
Pinel,
de Rougine. S'il vous plaît, silence dans les rangs de Saint-Quentin en Yvelines, Thomas Legrand, France Inter, Arnaud Leparmentier, Le Monde.